Il transgresse. Il subvertit toutes les normes propres au discours politique américain. Il provoque. Il excite les passions. Il polarise, au point où, même de loin, il est difficile de garder la tête froide et de différencier ce qui relève de l'information de ce qui relève du spectacle. À quelques jours des élections américaines, Donald Trump est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Vous écoutez Après coup.
C'est ça que tu disais, c'est de comment c'est tellement facile d'être pris dans une sorte de chambre, dans les echo chambers, où tu as tout le temps les mêmes messages du même côté qui s'amplifient. Puis en plus, tu as du monde dans ce créneau-là qui te feed d'informations très précises qui te fait penser que tu as vraiment l'information sur Trump, sur ce qu'il a dit. Tu sais, t'as ce qui s'est passé en arrière-scène, et en arrière-arrière-arrière-scène, fait que t'es sûr de ton coup jusqu'à temps que tu te rendes compte que finalement, il y a un autre côté que d'autres inside information en arrière-arrière-arrière-scène aussi. Tu sais.
C'est ça, puis c'est difficile. En fait, c'est difficile de savoir les informations que t'as, c'est-à-dire dont t'es certain que c'est de la vraie information, si c'est pas de la fausseté, mais filtré à l'avance par une lecture de bonne foi, mais biaisée.
Ben, puis le meilleur exemple, c'est cette semaine. Puis c'est une anecdote, c'est très anecdotique, mais en même temps, c'est de ça dont je parle. Moi, j'apprends qu'ils ont trouvé, les partisans de Trump, là, pour le dire comme ça, là, ils ont déniché un petit bout d'une vidéo que tout le monde essaie de cacher, où Joe Biden se perd, cherche ses mots, puis il a l'air à dire que son adversaire s'appelle George. Là, il montre le petit, puis là, tu le vois, regardez ça, petite vidéo, là, tu vois Joe Biden qui dit « Well, do you want 4 more years with George? » Puis là, bon, il hésite, puis finalement, il prend Trump, puis ça continue. Puis là, les autres, ils disent « Oh my God, tu parles, il est pas là pantoute, comme on dit. Il s'est trompé. »
C'est un vieux sénile.
Puis là, ben, les choses étant ce qu'elles sont sur Twitter, ça va vite. Les gens disent qu'ils devaient le confondre avec George Washington. Les blagues, tu sais, ça va très vite. Puis là, c'est repris. Puis à force d'être repris, ça devient vrai, ça devient de la réalité. Puis moi, j'entends des gens qui disent d'histoire en histoire, tu sais, ça devient sauce, extra sauce, extra plus. Là, il y a des gens qui disent « Ah oui, puis quand il dit ça dans la vidéo, quand il hésite puis il dit George, on voit sa femme à côté de lui, qui est assise à côté de lui. Tu sais, les yeux, l'air qu'elle fait en voulant dire avec qui je suis assis, qu'est-ce qui se passe avec Joe, il est pas là pendant toute, quelle humiliation, pauvre femme, on voit que... » Puis quand tu regardes la vidéo, sa femme, sérieux, il me semble qu'elle bouge pas. Tu sais, ça, tout ça dure une seconde. Là. C'est raconté en long et en sa réaction, fait que là, t'entends la réaction de sa femme. Bref. Et là, je vais faire une histoire courte. T'as toute cette histoire-là d'un côté, que plus ça va, plus les gens en rajoutent. Puis t'as l'autre histoire de l'autre côté qui dit « Mais c'est tout un montage. L'intervieweur s'appelle George. Puis il vient d'y poser une question. Fait que lui, il répond, il hésite un peu, il dit « George. » Parce que George vient d'y poser une question. Puis ça, ça vient pas, on le voit pas dans la vidéo, fait que t'as pas de contexte. Fait que c'est n'importe quoi.
Mm-hmm.
Mais les deux camps en parallèle pensent avoir déniché l'information secrète qui montre bien qu'eux ont la vérité.
Oui, oui, oui. Parce que c'est, en fait, c'est pas juste ça, c'est un montage. C'est voyez comment ils sont malhonnêtes. Mm-hmm. C'est aussi ça. C'est comme nous, on va rétablir l'ensemble du contexte parce qu'on veut montrer comment eux, ils sont malhonnêtes. C'est ça.
Oui. Puis l'autre côté réplique en disant « Ah, il essaie de toutes les façons de justifier... »
De cacher.
Oui, de cacher le fait que cognitivement, Joe Biden est, a plus ses facultés, ils ont trouvé n'importe quoi, c'est clair la façon dont il parle. Puis là, moi ça je le crois, tu sais, il vient un moment où il y a des centaines de personnes qui commandent ça en n'ayant pas vu le vidéo. Tu sais, c'est des commentaires sur des commentaires, oui. Des rectifications sur des exagérations. Oui. Ce qui fait qu'il y a comme tout un bateau qui est monté, puis qu'à un moment donné, tu sais plus qui ce qui est vrai, et là, de toute façon, se passe quelque chose de quand même fascinant. L'histoire est terminée, puis on passe à d'autres choses.
Oui! Une nouvelle histoire!
Une nouvelle histoire!
Oui, c'est vrai!
On m'en est passé, hein?
Oui!
C'est sorti, c'est tout le temps. Personne n'en parle d'un coup.
C'est terminé?
C'est terminé. En quelques heures, là... Là, tu vois, mais...
On va-tu arriver au bout de quelque chose?
C'est quoi, finalement?
C'est quoi qui se passe?
C'est-tu George ou pas George?
Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a même pas de conclusion.
C'est comme... Qui sont plus
c'est la fin de la série.
Oui.
On commence une autre série.
Oui. Puis quand tu es à la recherche de... Parce que c'est toujours ça la patte, toi. Je sais que tu es comme moi là-dessus, tu sais. Moi, ça me dérange pas, là. Je veux dire, un ou l'autre, ça me dérange pas. Ça, s'il y a eu un blanc de mémoire, il y a eu un blanc. S'il s'est trompé, il s'est trompé. Si c'est vraiment l'intervieweur, c'est l'intervieweur. Tu sais, j'ai pas de... Mais c'est quoi?
Oui, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le fond de l'affaire?
C'est quoi la conclusion?
On peut-tu arriver... Oui, on peut-tu arriver quelque part, finalement? Est-ce qu'on peut-tu... Hein?
Puis souvent, on arrive nulle part. On arrive à notre prochaine histoire qui est montée en épingle,
oui.
Puis qui est exagérée, puis une hyperbole par-dessus l'autre, puis...
Mais je trouve ça, que c'est une question qui est légitime, mais malheureusement, c'est une question qui reste toujours sans réponse. On ne peut pas arriver. Il n'y a pas rien où on va arriver. En fait, le chemin, c'est là où on devait arriver. C'est-à-dire, c'est à qui parle le plus fort et qui a eu le plus grand écho. Parce que il y a quelque chose. T'sais, par exemple, juste avec Joe Biden, tu sais que tu as une campagne électorale où on essaie de le dépeindre comme un vieux sénile, machin, et en même temps comme un vilain criminel, tu sais. En tout cas, le parrain, il a essayé de le faire passer, Trump a essayé de faire passer Biden
oui.
Pour le parrain.
Oui, le big man.
Le big man, puis en même temps, Sleepy Joe qui est dans le fond de sa cave.
Oui.
C'est même pas grave, en fait.
Non.
C'est juste... Ton but, c'est pas qu'on arrive à conclure de
qu'est-ce qu'il y en est. Ou que ce soit cohérent.
Ton but, c'est que ça ait un écho, que ça dépose quelque chose dans la tête des gens
oui.
Qui vont potentiellement t'élire. Et aussi, parce que ça fonctionne dans la presse internationale. Je suis pas sûre que c'est son but à Donald Trump, parce que là, on va peut-être y venir à ce qui tourne pas rond dans sa tête, puis pourquoi je me suis retrouvée à m'intéresser à ça, parce que sans m'intéresser à lui, en tout cas.
Ouais.
Mais, tu sais, il y a une part de projection, là, dans sa façon, ce dont il accuse, c'est brillant, ça, j'avoue que c'est brillant. Ce dont t'accuses ton adversaire, c'est précisément ce dont on pourrait t'accuser.
Oui, oui.
Et même précisément... Ce au sujet de quoi il y a des poursuites déjà intentées contre toi
ouais.
Et même tu as été destitué au Congrès. Ça fait que là, t'accuses l'autre de négocier avec les Ukrainiens quand c'est toi qui est destitué pour avoir manipulé le président, premier ministre ou en tout cas le
ouais.
Chef d'État ukrainien,
ouais.
Tu sais. Mais là où je voulais en venir par rapport à Joe Biden, juste ce petit bout-là, c'est que dans la presse internationale, par exemple, ceux qui s'intéressent un peu à ce qui se passe aux États-Unis vont avoir des échos de quelque chose à travers la presse canadienne ou l'agence France-Presse ou, tu sais, le Reuters ou, tu sais. Et moi, j'ai parlé à plusieurs personnes qui sont convaincues que Joe Biden est sénile.
Oui.
Je comprends pas.
Oui, mais ils l'ont tellement entendu souvent.
Ben, c'est donc ça s'est déposé.
Oui, ça fait son
chemin.
On
n'est jamais arrivé à la conclusion de, par exemple, cet échange-là censé illustrer la sénilité du
ouais,
bonhomme.
Qui est une des preuves, là. Puis Trump l'a repris dans un de ses rallyes, hein.
C'est comme
de raison, hein.
C'est fait qu'il y a ce génie-là. Pour vrai, ça fonctionne. Il dirige, il oriente.
Ouais.
Les histoires qui se racontent dans la presse, y compris la presse internationale. En fait, en contre-jour, moi je m'excuse, là, mais il y a comme tu la vois la faiblesse du traitement journalistique, en tout cas à notre niveau, à notre distance à nous,
ouais.
De ce qui se passe là.
Mais c'est vrai que ce qui manque, c'est pour ça des fois quand tu lis des jugements lors d'un procès. Je sais que tu penses comme moi là-dessus. Tu sais, tu lis un jugement, puis même que tu sois d'accord ou non, ça fait du bien de voir le jugement.
Oui.
Ça tranche.
Il y a quelqu'un qui a tranché.
Il y a quelqu'un
finalement
qui a dit, regarde, j'ai entendu vos arguments.
Toi, tu ne l'es pas.
Oui, j'ai entendu ton argument, j'ai entendu ton argument.
J'ai bien écouté.
Il y a 8 chefs, les 4 premiers ne tiennent pas, le 5e, tu dis, ah, OK, bon, oui, là, tu comprends tout. Puis c'est vrai que moi, ce qui me ferait du bien, ce qui serait bien de lire des fois, ça serait quelqu'un au Québec, ailleurs, dont tu sais qui est pro-Trump, qui dirait, quand même, dans cette anecdote-là spécifique, forcé d'admettre qu'on s'est trompé, il parlait à l'intervieweur, regardez, c'était drôle, c'était le drôle de temps que ça a duré, mais ça n'a pas de fondement, on va quand même le dire. Là. Mm-hmm. Et même chose pour l'autre côté, tu sais, qui pourrait dire, effectivement, la chose s'est passée, puis on a accusé Trump, mais on s'est trompé, ce qu'il avait fait, c'était plutôt bien, puis bon, il peut pas tout, tu sais. Mm-hmm. Quelque chose où tu dis, ah bon, ben oui, t'as quelqu'un qui... Mais là, c'est comme si chaque parti dit, mais ça vaut pas la peine de faire ça, il y a aucune raison de faire ça, il y a personne qui s'attend à ça.
Oui,
il faut juste rajouter une pierre, rajouter quelque chose qui va se déposer dans le sens que Joe Biden, au niveau cognitif, ça ne fonctionne plus, puis que Trump, c'est un clown. Fait
oui.
Restons dans la bonne, tu sais, dans notre bon sillon.
Le bon sillon, est-ce que c'est on est pro-Trump ou pro-Biden, disons, dans la presse internationale, ou on est juste pro l'histoire qui va faire cliquer dans notre journal
aussi,
et donner l'illusion à ceux qui s'intéressent à la politique internationale d'avoir appris quelque chose.
Ouais.
Parce que, qu'on soit pro-Trump ou pro-Biden ou neutre ou peu importe, on a quand même relayé dans des journaux, tu sais, comme des dépêches d'agences de presse sérieuses, le conflit entre guillemets entre Donald Trump et Anthony Fauci.
Ouais.
Qui a aucune raison d'exister dans la presse internationale. En fait, là, quand tu regardes cette histoire-là dans le petit menu détail, là, t'as Anthony Fauci qui essaye de faire ce qu'il peut pour faire passer un message d'intérêt public dans un objectif de santé publique. Jamais qu'il a essayé de voler la vedette à quiconque ou de, tu sais...
Ou de se faire élire d'une façon.
Non, puis il veut pas se mêler de politique. Il veut juste comme passer des messages d'intérêt public, informer les gens sur ce qu'on sait au sujet de la pandémie. Bon, ben ce monsieur-là est tassé régulièrement par le président américain des conférences de presse sur la pandémie. Le président américain qui est... qui exprime quasiment explicitement sa jalousie quant à la crédibilité dont jouit le docteur Fauci, puis qui trouve intelligent de tronquer ses propos pour les mettre dans une publicité et donner l'impression que Anthony Fauci est admiratif du travail que Donald Trump a fait. Ce qui n'était pas du tout le sens de son propos, pas en tout.
Mm-hmm.
Puis ça, cette histoire-là, c'est comme cute, là, comme, tu sais,
ouais,
là,
comme
soap, là, comme anecdote, là, de petite politique, de coulisses et tout ça.
Ouais.
Bon, Fauci, lui, il est comme découragé, puis il trouve ça vraiment plate, parce qu'il a toujours tout fait pour éviter de prendre position pour quelques... Ça fait 50 ans qu'il est là... Il a servi plein de présidents, il n'a jamais pris position pour personne. Lui, c'est la santé publique, puis c'est un nerd, là,
ouais.
Tu sais, c'est un... Bon. Ben, y a-t-il une raison pour que ça fasse partie de l'actualité, ça, internationale, quand tu lis un journal, puis tu... sais?
Oui, oui.
En fait, le message ou le sujet lui-même se perd dans la façon dont on traite l'actualité.
Mm.
En général, on aimerait ça aussi comme un traitement journalistique des enjeux là, qui nous aide à nous rassurer sur la crédibilité du travail journalistique lui-même.
Ouais.
En fait, je dis ça parce que j'ai écouté Conrad Black ce matin.
Ouais, non.
Puis je trouve que là-dessus, il a raison. Il y a comme une crise de la crédibilité des journalistes puis du monde des médias. Puis je pense que de nous amener des histoires comme ça. Anthony Fauci proteste que Trump est venu à tronquer ses propos, blabla. C'est pas de la politique internationale, ça. C'est du soap opera.
Oui, puis tu sais, c'est ce qu'on se dit tantôt des fois, que Trump a cette capacité-là de caricaturer des situations, de caricaturer du monde. À force de caricaturer sa caricature, fait que là, ça devient, tu sais, de plus en plus gros. Puis il se crée une histoire autour de sa caricature, puis là, il en parle, puis là, les gens en battent, puis en discutent.
Là, les journalistes, entre autres gens, oui. Tu sais, les journalistes prennent le take the bait, comme on dit en anglais, oui. Là, attrapent l'hameçon, là. Cette histoire-là, on va la vérifier,
ouais.
On va en parler. Ce qui fait que c'est comme ça que Trump joue avec la presse.
Ben oui, puis à un moment donné, il y a comme un piège qui se passe, parce que soit qu'ils prennent l'espèce de gros ballon qu'il a lancé en disant « Mais là, on va le dégonfler en montrant les 123 mensonges dans ce qu'il a raconté », puis ils le font. Mm-hmm. Le New York Times, du coup, va dire « Facts check, 123 exagérations », puis... Mais en parlant de l'histoire, il en parle. Tu sais, ça... Fait que soit qu'il en parle, puis que ça contribue à ce que l'histoire commence à avoir des effets, soit qu'ils n'en parlent pas, puis on les accuse de retenir l'information,
oui.
Puis d'être biaisés,
oui.
Puis d'être malhonnêtes parce qu'ils,
oui.
Choisissent ce dont ils parlent.
Oui.
C'est, il y a comme un truc où, à un moment donné, ouais, c'est ça. Les journalistes sont coincés par ce phénomène-là, puis ils finissent par...
Mais ils sont coincés par la logique même de leurs institutions, il me semble, la façon même de fonctionner. Ils sont pas, ils sont comme pas outillés pour diluer ou analyser ou comment en anglais il y a le streamlining. Tu sais, comme mettre un cadre, mettre de la structure à la pseudo-information qui sort de la bouche d'un gars dont toute la vie public,
ouais.
A été consacré à envoyer des ballons pour faire parler de lui dans les médias. Il a comme compris comment,
oui,
ça marchait.
Oui, depuis longtemps. Hein.
Il sait comment les jouer, il sait comment être le lead, être celui dont on parle,
ouais.
Il sait comment choquer
puis
pour faire parler
en
de
plus.
Lui.
Il a écrit qu'il a fait ça,
oui.
À plusieurs reprises dans sa carrière, tu sais, qu'il multiplie les conférences de presse quand il va construire un nouveau building, même s'il n'y a rien à dire. La conférence de presse porte sur la conférence de presse,
oui.
Et sur le fait qu'il en fait une,
oui.
Et qu'il est vu. Mais c'est ça.
Ben, c'est ça qui est arrivé juste cette semaine avec l'entrevue à 60 Minutes. Là. C'est exactement ça. C'était cute à regarder, là. Mais même si à la fin, ça fait comme soupir d'énervement et de lassitude, parce que finalement, ça revient toujours au même. C'est que là, il est content de pouvoir avoir accès à Twitter... donc, de maîtriser son propre média, dans le fond. Ça fait qu'il parle comme il veut aux gens, tu sais. Fait qu'il dit une chose et son contraire, puis ça ne le dérange pas, hein. Il ment, ça ne le dérange pas. Il n'y a rien qui dérange. Le lendemain, il annule la veille, puis tu sais,
ouais.
Bon. Ça fait que là, il est reçu par 60 Minutes pour une entrevue traditionnelle avec les candidats. Là, ils font ça à chaque élection. Et ce qu'on a vu, c'est un Donald Trump sortir de l'entrevue avant l'heure où il aurait dû sortir, puis avec l'air bête. Fait que là, il y a comme un hype qui commence. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh mon Dieu, l'entrevue a dû être désastreuse. Fait que du côté de la presse, style démocrate, c'est ben oui, clairement, Donald Trump, il est en train de perdre ses moyens. Il est incapable de défendre sa réponse à la pandémie. Il est incapable de répondre à des questions difficiles. Ses habiletés cognitives sont en déclin. Il est parti plus tôt parce que cette journaliste-là, lui a posé des questions difficiles, puis il a craqué.
Ouais.
Personne n'a rien vu encore. On l'a juste vu sortir,
ouais.
De bonheur.
Ouais.
Lui, il sort, tweet comment c'est scandaleux, puis les fake news, puis c'est terrible comment on le traite. Puis... Mais là, il s'est bien défendu. Puis là, il s'en va au rallye le soir même. Pour dire, vous irez voir l'entrevue.
Vous allez aimer ça.
Vous allez aimer ça. Vous allez voir comment je la traite, tu sais, comment je la remets à sa place.
Joe Biden, on lui demande. Joe Biden, on lui demande toujours, c'est quoi sa crème glacée préférée?
Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. On me harcèle, on me, tu sais.
Ouais.
Fait que là, t'es là, puis moi, personnellement, j'ai hâte de voir ça. Là, il y a toute une,
ouais,
construction, un suspense, j'ai hâte. Puis là, je regarde l'entrevue. Il dit rien. Il est prêt. Il attend juste ça.
Ouais.
De lui dire, c'est terrible les questions que tu me poses. Il attend juste ça. Il est prêt à la planter.
Il y a comme un quiproquo dès le départ.
Elle essaie de poser des questions. Are you ready for tough questions? Ce qu'elle lui demande. Puis c'est pas des questions si difficiles. C'est juste que quand tu nies, par exemple, là, de mémoire, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est ça aussi. Tu nies qu'il y a presque 225 000 morts de la pandémie, dont tu dis 1000 par jour. Aux États-Unis, là, t'es comme dans le plus haut, c'est un désastre humanitaire, tu sais. Donc, 225 000 morts d'une pandémie, dont tu dis qu'on est sorti finalement. Puis la journaliste dit, mais non, on n'en est pas sorti, on a 1000 morts hier. Tu réponds que c'est tellement négatif puis que c'est des questions difficiles.
Turn the corner.
C'est un fake entrevue, c'est un fake scandale.
Ouais, ouais.
Mais t'as réussi à nous faire attendre. T'as réussi à nous accrocher pour qu'on suive ce que t'avais à dire.
Mais là, tu sais, la dernière fois, comme quelques semaines, on avait parlé d'un film d'Hitchcock, puis il y avait Guy puis Bruno, puis il y avait...
Strangers on a Train.
Oui. Puis là, on s'était dit, pour résumer, c'est assez simple, t'as quelqu'un qui commet un meurtre, puis essaie d'entraîner l'autre dans ses histoires de meurtre, puis l'autre, il embarque pas. Puis moi, j'avais dit, ah, mais quand même, il y a des psychanalystes, des psychiatres qui disent, ouais, mais, tu sais, celui qui embarque pas, il embarque pas, mais il suscite à l'autre le fait de vouloir faire le meurtre, puis il reconnaît chez l'autre ce qui est présent chez lui, puis il y a comme tout un truc de, finalement, ils sont peut-être pas aussi loin qu'on pense. Puis nonobstant ça, à un moment donné, on s'est dit, puis tu as dit, tu sais, mais il y a quand même quelqu'un qui fait là, qui commet le meurtre, puis l'autre, même poussé à le faire, il le fait pas, puis il dit non. Fait que là, il y a vraiment une comparaison, puis il y a même un critère où on peut dire...
Il y a une
dire,
limite.
Oui, puis il y a vraiment une comparaison où on peut dire... OK, peut-être qu'ils ont des enjeux semblables, peut-être qu'ils ont tous les deux de la difficulté à maîtriser leur pulsion agressive. On peut spéculer comme on veut, hein, mais quand même. À un moment donné, il y a quelqu'un qui tue la femme de... T'sais. Bon. Mais c'est ça, moi, mon bug. Puis c'est là que j'ai pas franchi le pas, encore une fois, avec Trump. Pas encore une fois, mais encore, peut-être avec trois petits points. T'sais, j'entends le monde qui disent « il est unfit, il est fou ». Il est débile, c'est un clown, il n'y a pas d'affaire là, il est dangereux. Puis je comprends ce qu'ils disent pour le justifier, mais il me manque souvent, pas tant les critères qu'ils utilisent, mais les critères appliqués à d'autres. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait aucun autre politicien qui est passé par ce filtre de santé mentale-là. Puis avec Trump, c'est bien accepté. Puis je comprends pourquoi, parce que, tu sais, il se met en spectacle, puis, tu sais, c'est une caricature, fait que ça appelle des réactions fortes, tu sais, ça, je comprends, là. Mais pour moi, ça serait plus crédible si on dirait, mais voici pour, comme je te disais, tu sais, on écoute ce qu'il dit, puis il utilise des hyperboles, puis il exagère, puis il tourne les coins ronds, puis il caricature, puis on se dit, regardez, il a parlé 50 minutes, il y a eu 123 endroits, là, il y a eu ça qui est sorti cette semaine, là, le New York Times dit, dans un tel rallye en Arizona, il y a fact-check 123 choses qu'il a dites, en 85 minutes qui sont fausses ou qui sont pas tout à fait justes ou qui sont des exagérations qu'il répète même si on lui a dit que c'était faux. Ok, parfait, mais là, c'est pas le premier politicien qui a des mécanismes pour masquer la vérité. C'est pas comme si on venait de découvrir que... Fait que la grille d'analyse pour Obama, c'était quoi? La grille d'analyse pour Biden, c'est quoi? Fait que si on me disait, mais Biden, lui, quand on l'écoute, de la même façon, il tourne les coins ronds 86 fois, puis là, la limite... Tu sais, c'est ça qui manque, je trouve. On rentre dans Trump à cause de sa caricature, mais on le fait pas pour d'autres. Puis c'est là qu'à un moment donné, il va falloir le faire. Sinon, ça se peut pas. C'est pas comme s'il y a eu un menteur dans l'histoire de la politique, puis c'est Trump, là.
Je peux essayer de répondre en partie?
Yes.
Je pense que c'est vrai ce que Conrad Black énonçait dans son style
Lord
de Lord que il y a quelque chose de l'intelligentsia style new-yorkaise, tu sais, comme d'une culture de groupe qui tolère mal quelqu'un dans le style de Donald Trump. Il fit pas dans Puis c'est comme impardonnable pour eux que ce personnage-là, qui jure tellement avec leur tu sais, les traditions, les façons de faire,
ouais.
de la bonne société new-yorkaise et même de Washington.
Dont les façons de mentir.
Oui, dont les façons de mentir, c'est ça. Oui, t'as raison. Qui fait que c'est impardonnable de voir... C'était inimaginable de penser qu'ils seraient jamais élus. C'est leur traumatisme aux démocrates, là.
Mm-hmm.
Et à la presse, qui fait partie du même milieu. Je suis d'accord avec ça. Il y a comme une...
Ouais.
C'est impardonnable, c'est traumatisant qu'il ait été élu. Et ils essayent, eux, de leur côté, de faire du même... comment... Double down, là, comment mm-hmm. on dit? Hein?
Mm-hmm.
Tu sais, comme ils recommencent, ils ont toujours continué, puis là, ils renforcent leurs attaques contre ce personnage-là qui n'a pas rapport là où il est, qui est un lieu qui leur est dû à eux.
Oui.
Ouais. Fait qu'il y a ça.
C'est bien dit.
Hein? Je pense en... Je suis d'accord, en partie. Ça, malheureusement, ça fait que il y a des choses vraies et sérieuses et graves qui passent pas si bien, on dirait, dans la presse, que ce monsieur-là fait. Tu sais? Où là, tu dis, OK, moi, comme ça m'intéresse là, de voir comment un fucké se retrouve président des États-Unis, puis je veux savoir comment ça marche, puis un ou l'autre, ou tu sais, on peut être tout est relatif par ailleurs, mm-hmm. tu sais. Mais c'est un monsieur qui galvanise les groupes d'extrême droite réellement. C'est-à-dire, c'est pas un fantasme de la gauche, ça. C'est comme une menace réelle et grandissante aux États-Unis. Selon le FBI de Donald Trump, OK? Des gens qui se promènent avec des AK-47, des gens qui se font arrêter parce qu'ils ont prévu d'enlever la gouverneure du Michigan et de l'assassiner après que Donald Trump les ait encouragés. Tu vois, des groupes à qui il parle en langage cryptique dans son fil Twitter, premièrement. Deuxièmement, son espèce de truc à Washington, D.C., il y avait des manifestations après la mort de George Floyd devant la Maison-Blanche qui l'ont fait fantasmer je sais pas quoi, mais l'ont fait sortir de la Maison-Blanche après que des manifestants et des religieux, et tu sais, c'était comme peace and love, la manifestation, aient été gazés, tu sais, pour que lui puisse sortir de la Maison-Blanche pour se faire prendre en photo devant une église qui a été soi-disant brûlée.
Mmh.
Tu vois-tu, là, il y a comme...
Une Bible, là, ça?
Oui, oui. Tu vois-tu, là, l'iconographie qu'il essaye dont il essaye de se parer, c'est une iconographie guerrière contre la population de son propre pays, puis qui a des vraies conséquences, en fait, parce que t'as en même temps que tout ça, t'as des sortes de milices qui, au nom du gouvernement fédéral, se promènent comme dans des chars non identifiés, ramassent des gens, font des arrestations dans des lieux de protestation à Portland, entre autres, sans qu'ils aient l'autorisation légale d'intervenir. Mmh. Tu vois-tu, il y a comme quelque chose... Ceux qui sont intervenus... Là, j'espère que je ne suis pas incohérente dans l'ensemble des choses que... Je trouve que ces républiques de bananes, là, on fait ça, en tout cas...
Oui, puis ça va plus loin, ce que tu dis, que le personnage, puis le fait qu'il est orange, puis, tu sais, des fois, tout ce sur quoi on peut s'accrocher pour le dénigrer, mais qui, en fait, dans le big picture, est vraiment pas si important, ça.
Non. C'est un criminel, OK, qui a, comme, je sais pas combien de poursuites, genre 3500, 2500 poursuites qui l'attendent, qui sont en cours. Des poursuites pour fraude, des poursuites pour viol et agression sexuelle, violence sexuelle qui sont en cours, mais qui ne peuvent pas vraiment avancer tant qu'il est président, il y a l'immunité.
Mmh.
C'est un gars qui a comme des deals chelous avec des gens dans d'autres pays, non? Tu sais, avec la Russie, des banques russes, des banques... T'sais, qu'on soupçonne de blanchiment d'argent. T'sais, tu vois-tu,
dans
là,
un contexte où lui, il accuse la famille Biden.
Ben, c'est ça. C'est de la pure projection. Voyons. En tout cas, ouais. Tu vois-tu? Fait que, bon, puis lui arrive en disant « Drain the swamp », puis « lock them up », c'est un chant style règne de lutte, là.
Ah, oh, tout à fait. C'est l'enfer, écoutez ça, hein.
Mais c'est épeurant, parce que quand tu vois que t'as des milices, tu sais, paramilitaires, là, des groupes, là, qui réagissent à ça et prévoient d'aller libérer le Michigan de sa gouverneure après un tweet de Donald Trump qui dit « Liberate Michigan », libérer la gouverneure en l'enlevant puis en l'assassinant. C'est là que je trouve que, tu sais, ouais, c'est plus drôle. En tout cas, c'est pas, ouais, mon pays, mais oui, en même temps...
D'où le fait qu'on peut en parler librement.
Sauf qu'en même temps, c'est comme si les États-Unis qui tiennent un équilibre dans le monde en ce moment, puis quand ça marchera plus, ben là, c'est comme ça va avoir un oups, effet domino.
Ça a
là
toujours un impact, on est collé.
Oui, puis nous, on est collés, c'est... Oui, fait que j'espère, ouais, que je me suis pas trop emportée, mais c'est que je trouve que c'est grave au-delà du clown qui est à la Maison-Blanche puis qui donne un show. C'est qu'en arrière de ça, t'as des lynchages à l'intérieur de la Maison-Blanche, t'as des gens qui sont fait mettre dehors sans égard Vincent, ouais, Alex Vindman, pour avoir témoigné de ce qu'il avait entendu simplement, qui était pas flatteur pour le président. Puis c'est pas un fake impeachment en passant, pour ceux qui l'ont suivi, contrairement à ce que M. Conrad Black prétend. C'est pas du tout fake. T'sais.
Mais tu vois, la réponse de l'autre camp à ça, c'est de dire, ben depuis le début, les médias entretiennent, ça a même précédé son élection, là, entretiennent l'idée que Trump va créer du chaos, que Trump, ça va être chaotique, qu'il va avoir la guerre mondiale, qu'il va mettre le chaos dans les... que ça va être le chaos, puis que le moindrement qu'il y a des mouvements sociaux de gauche ou des manifestations de la gauche radicale, c'est encouragé pour créer une espèce de guerre civile,
oui,
puis de pouvoir dire,
oui,
avec
c'est
Trump,
possible,
c'est donc le chaos.
Oui, c'est possible, c'est possible. En même temps...
Mais un n'empêche pas l'autre, c'est toujours
ça.
Ça. C'est toujours ça l'affaire, tu sais.
Parce que, tu sais, t'as sur un truc que je trouve qui est un phénomène qui est spécial quand même, c'est que t'as des gens sur Twitter, t'as un courant de gens qui sont comme anti-woke,
mm-hmm,
tu sais, anti soi-disant nouvelle gauche, là, ou
ouais,
soi-disant gauche,
ouais,
là, c'est tout ce nouveau courant de qui a coûté la réputation de Lindsay Shepherd, par,
mm-hmm,
exemple, ou qui coûte des,
oui, puis qu'on se
des
disait
postes
l'autre fois...
de prof.
Qu'on se disait l'autre fois en boutade que ça pourrait quasiment être eux à un moment donné qui feraient élire Trump, c'est quand même ironique.
Mais c'est
là.
Ça. C'est ça, c'est que t'en as des gens qui sont des gens qui se décrivent comme des libéraux ou des gens qui se décrivent comme à gauche et qui se préparent à voter pour Donald Trump pour le motif de son opposition ou de l'opposition de son administration à l'avancée de cette idéologie-là
ouais,
de formation à l'antiracisme et tout ça qui...
Woke.
Woke, dans cette logique-là.
Dire, vite, ouais.
C'est ça. Puis là, tu dis, ben oui, OK, ben là, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. C'est comment tu dis, OK, fait que là, on se retrouve devant deux mots. C'est quoi vraiment le moindre?
Ouais, puis qui ont les deux... Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Comme composante principale, l'idée de vraiment beaucoup plus que je pense depuis 20, 30, 40 ans, ouais, de remettre en question des institutions. T'sais.
Oui.
Tu sais, t'as Trump quand même, t'sais, ça frappe ça, quelqu'un qui dit ben, on va arrêter de reconnaître l'Organisation mondiale de la santé.
Oui.
T'sais, parce que là, tu sais, il y a des affaires, sinon, dans la vie, tu peux dire ah, ben ça, c'est reconnu, c'est legit.
Oui.
L'ONU. Il y a plein d'affaires comme
oui,
ça que tu peux dire bon, quand même, c'est pas. C'est pas Twitter, là, c'est pas du monde qui ont parti une business, c'est des institutions reconnues par plein de gens. Trump remet en question l'ONU complètement. L'Organisation mondiale de la santé, il a arrêté de les financer, je pense. Hein? Il a menacé
oui,
ou il l'a fait? Je pense qu'il l'a fait, hein?
Ben, il a dit qu'il le faisait.
Je sais qu'il a dit qu'il le ferait au mois de mai. J'ai vérifié, puis il l'a fait, mais je ne sais pas après s'il est revenu sur son idée, puis il n'a pas arrêté finalement.
Ben, c'est parce que là aussi, ça, c'est une affaire. Il dit bien des affaires qu'il ne fait pas, puis il fait bien des affaires qu'il.
Mais en tout cas.
Puis ça fait des nouvelles comme si c'était vrai, mais il ne se passe rien.
Oui, puis maintenant, on oublie. Pis...
Ben, c'est ça.
Puis pour vrai, de. Je n'ai pas cherché très longtemps, mais c'était pas si facile à trouver. Si là, en ce moment, il avait arrêté de financer
c'est
ou non.
C'est ça, qui, c'est là où tu dis, voyons les journaux, pourquoi vous c'est ça, pardon.
Mais bon, ça passe à une autre histoire.
Ben, c'est ça.
Fait que t'as d'un côté Trump qui remet en question des institutions, puis qui est le premier président, sauf erreur depuis longtemps à faire ça, aussi manifestement, de remettre en question l'OMS en disant, ils sont pas bons, ils sont incompétents, ils nous ont pas aidés. Quand même, ça choque.
Mmh.
Et aussi la culture woke qui dit ben défendre la police. Il y a d'autres institutions comme ça qui sont dans nos jambes, qui font pas leur travail.
Abat toutes les institutions.
Oui, des deux côtés.
Sont patriarcales, sont racistes, sont colonialistes, etc.
Puis le racisme est systémique dans le sens que c'est imprégné dans la peur, puis on s'en rend même plus compte. Puis on peut penser, puis on va le voir lors des élections, qu'il y a aussi toute une couche de monde, un paquet de monde. Qui sont en ni un ni l'autre, puis qui comprennent pas trop nécessairement cette remise en question-là, de part et d'autre, parce que pour eux autres, des institutions qui sont là depuis longtemps, puis il y a longtemps que ça reste comme ça, puis que dans le doute, ils veulent pas trop...
Ben, il y a un truc, tu sais, par rapport, puisqu'on est en période électorale, tu sais, si je peux... c'est qu'il y a un truc que Conrad Black essaye d'avancer, c'est-à-dire, il essaye de dire, mais finalement, on va encore élire Donald Trump, puis ça va bien ses affaires. Il veut pas le dire, pour pas, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a l'air d'aller dans ce sens-là.
Ouais.
Y a un truc qui est vraiment différent à l'élection actuelle de maintenant, là. Fait qu'aujourd'hui, on est le 30 octobre 2020, les élections, c'est dans 3 jours. On n'aura pas les résultats finaux avant plusieurs semaines, pour mille et une raisons. Mais il y a quelque chose qui est vraiment différent. En 2016, celle contre qui Donald Trump se présentait, c'était Hillary Clinton.
Ouais.
Hillary Clinton, c'est une femme qui, dirait-on, ne faisait pas l'unanimité aux États-Unis. Elle est associée à toute une représentation de comment la classe politique a abandonné le travailleur, la travailleuse, moyenne.
The common man.
C'est ça. Tu sais, c'est comme ce que Joe Scarborough appelle les latte liberals.
Ouais, c'est bien dit.
Tout ce que ça représente, c'est-à-dire la mondialisation et tout ça. Puis à la fin de sa campagne électorale à elle, ce qu'elle a mis de l'avant, c'est « je suis une femme, votez pour moi, lui c'est un sexiste, on est contre le racisme, etc. Votez pour moi, etc. » Michael Moore, qui est un gars qui vit dans le Rust Belt, c'est peut-être un des seuls qui est allé essayer. Il a fait un film en 2016. Le film, c'est Michael Moore qui est en train de donner une conférence à des gens. Je ne sais pas s'il est au Minnesota, lui, ou en Pennsylvanie, ou tu sais, comme dans le Rust Belt. Puis tu vois, dans l'Assemblée, c'est beaucoup des hommes blancs. Des perdants de la mondialisation, tu sais, des gens du travail de l'auto, des gens en particulier qui ont travaillé dans l'automobile, qui ont vu leurs entreprises.
Qui ont été caricaturés des fois par erreur ou en tout cas d'une façon qui n'est pas très légitime, comme des, tu sais, les angry white males. D'une façon non légitime au sens où des fois on en parle comme si ils sont en colère, ils sont grognons, mais. Je veux dire, du monde là-dedans, il y avait une situation, une famille, une job, ils ont perdu
et ils souffrent.
Oui, fait que c'est pas juste les grognons qui écoutent Rush Limbaugh, tu sais, des fois, il y a de quoi aussi.
Oui, c'est ça.
C'est ça qu'on a sous-estimé des fois.
C'est ça, c'est que tu nies leur existence, tu nies leur souffrance, tu nies leurs conditions socio-économiques. Ouais. Quand t'es dans le Parti démocrate, Et quand t'es de la famille Clinton, parce qu'il y a oui. comme toute l'aura autour de ça, des gens, des démocrates, qui sont arrivés avec un discours pro-prolétariat ou pro-petites gens, ouvriers, etc. Oui. Mais qui, en réalité, n'ont pas fait grand-chose, dont la présidence a été... a résulté dans la perte d'un pouvoir d'achat, de conditions de vie, ouais. de toute une tranche de la population, qu'ensuite, en plus, tu as le culot de ridiculiser en parlant des déplorables, ouais. parce que là, ils se tournent vers un populiste qui leur dit « moi, je vous comprends ».
Exact.
Fait que Michael Moore, lui, a eu peur. Michael Moore, c'est un gars de gauche. On ne peut pas lui reprocher d'être de droite puis d'être un Trumpiste qui est allé les voir puis qui leur a dit « on comprend ». Moi, je vous demande, moi, je comprends, je vous comprends, je vous demande, je reconnais que le Parti démocrate vous a laissé tomber.
C'est perdu, ouais.
Que la famille Clinton, Hillary Clinton, c'est pas la personne que vous aimeriez, mais Donald Trump, c'est pas votre ami. Il vous fait croire qu'il est votre ami, il est pas votre ami. Je vous demande de donner une chance au Parti démocrate de se renouveler, tu sais. Ça, c'est le truc en 2016.
Ce qui serait probablement pas arrivé. Par contre, on pourrait avoir l'idée que la meilleure façon pour un parti de se renouveler, des fois, c'est d'être dans l'opposition une couple d'années. Hein. Mais bon.
C'est ça. Mais là, t'as comme quelqu'un qui arrive à la tête du Parti républicain, qui est en fait un démocrate de culture, parce que c'est ouais. un gars de New York, c'est un gars qui a fréquenté les Clinton, c'est un ouais. gars qui... rêver de faire partie de cette gang-là, mais ouais. qui a juste jamais été accepté, on pourrait dire, mais entre autres parce qu'il vient de Queens, ouais. c'est comme un, c'est pas de la même classe. Non. Il y a ça.
Exact.
Moi, je pense que tout ça, c'est une lutte des classes, mais...
En filigrane,
là. Ben, quand dans sa mouture au Québec, là, en tout cas, on en prend parler un autre tantôt, tu sais. Mais lui qui se présente, c'est un populiste, mais qui se présente comme le défenseur de la veuve et de l'orphelin,
mais pis,
du Rust Belt.
Oui, puis du travailleur.
Pis du travailleur, lui qui n'a jamais touché à rien de sa vie, là, qui est né millionnaire, là, qui allait à la petite école en veston-cravate, puis en voiture... avec un chauffeur, lui qui a hérité de 400 millions de dollars de son père, tu sais, là, ouais, ouais. Qui est un gars de New York, qui a beau être de Queens et de New York, qui était...
Oui. Tu sais? Mais qui a quand même pas traité les déplorables de déplorables.
Qui a pas traité les déplorables de déplorables, puis qui a pas agi comme si la présidence lui revenait de droit divin.
Ouais.
Il y avait de ça, tu sais?
Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai entendu ça cette semaine, puis je le savais pas trop, il y a... Ben c'est sûr, dans l'après-coup, tu retrouves toujours du monde qui disent « moi, j'étais le seul avant les élections de 2016 qui avait prédit l'élection de Trump ».
Ouais.
Tu sais, c'est comme l'idée de quelqu'un qui dit dans « j'ai toujours été un premier de classe ». Finalement, dans la classe, il y avait 12 premiers de classe. Là.
Oui, c'est ça.
Dans l'après-coup, c'est facile. Là.
Oui, c'est ça.
Mais nonobstant, ce type-là, dont j'oublie le nom, lui, il disait qu'il a réussi à avoir la popularité qu'aurait Trump parce qu'il avait inséré dans son sondage... quelques questions clés, des espèces de clés, c'est pas clés qu'il disait, hein. Mais essentiellement, c'est des questions que tu sais que la façon dont les gens répondent à cette question-là
oui.
va indiquer si c'est des pro-Trump, même s'ils ne diront pas, parce qu'il y a toute une acceptation sociale à dire que tu es pro-démocrate et puis que tu ne veux pas dire que tu es Trump. Ben, bref, lui, sa question, c'était « pour qui va voter votre voisin? » C'était sa question
okay.
piège, entre guillemets.
Oui.
Et que quand les gens disaient « Ah non, moi, je suis indécis, je suis plutôt démocrate. » Non, mais puis là, il leur demandait « Qui vote votre voisin? » Trump! Il se disait « Ce gars-là, cette femme-là va voter pour Trump. » Puis ça a été tellement pareil que ça a fait école, tout ça, puis que maintenant, dans les sondages, je suis toujours inclus.
C'est lui qui a toujours réussi à prédire
ouais.
correctement le prochain président.
Ouais.
Oui, oui, oui.
Puis que
oui,
là, tout le monde a introduit cette question-là depuis qu'il en a parlé. Mais là, lui, il dit, mais maintenant, il est rendu caduque parce que tout le monde le sait. Qu'il oui. y a deux autres nouvelles questions dans ces nouveaux sondages qui permettent d'en arriver à cette... Avec l'idée, tu sais, que le vote de Trump, serait toujours sous-estimé par les sondages, pas juste parce que les médias sont biaisés, mais parce que il y a une espèce de désirabilité sociale
à ne pas dire que tu votes pour un clown comme ça.
Ouais, c'est ça.
Sauf que là, ce qui est différent, c'est que, c'est, en fait, c'est que on verra, là, les paris sont ouverts, tu sais. Mais là, ce qui est différent, c'est que Donald Trump est en compétition avec Joe Biden, qui est un gars de Pennsylvanie, underdog. L'underdog, c'est le vieux de 78 ans.
Ouais.
Qu'on dit sénile dans, dans l'autre campagne,
ouais.
Qui est un gars de Pennsylvanie, qui a vécu plein de misère dans sa vie, qui a perdu sa première femme, un de ses enfants, qui a un enfant qui a été toxicomane, qui a perdu un autre de ses enfants au cancer, tu sais, qui a connu la souffrance, qui a été père monoparental un bout de temps, qui se rendait de Washington jusque chez lui en train à tous les jours. Tu sais, là, ouais. Lui, c'est pas Hillary Clinton.
Non.
Qui fait, avec le clan Clinton, des millions de dollars juste à parler, puis à avoir une fondation qui fait des affaires qui sont pas nécessairement nettes, puis qui se présente comme... c'est, ce qu'on dit, c'est The Hamptons.
Ouais,
c'est,
ouais, le,
la,
c'est le Hamptons.
La, c'est ça. C'est, le,
la royauté.
C'est la classe. Ouais. C'est comme, comme descendant de JFK, la famille. T'sais, c'est comme une classe sociale, ça.
Mais en plus, en plus, avec une personnalité un peu abrasive par rapport à certains traits spécifiques que les choses lui sont dues. Puis, il y avait des trucs quand même que des fois, tu peux dire c'était pas super habile.
Puis c'était pas une personne sympathique.
Ouais.
Et... Tu sais, on peut dire, c'est une femme, tu sais, de dire, ben, t'es obligé de voter pour moi pour qu'on ait la première femme à la tête des États-Unis.
Vraiment qu'elle a trop joué.
C'est rébarbatif un peu, tu sais. Tu vas dire, OK, mais quoi aussi?
Ouais.
Tu sais? Puis, ceux qui votent pas pour moi, il y a comme dans tout un panier des déplorables. Fait que les déplorables, c'est ceux qui souffrent.
Ouais.
Puis là, tu peux dire, ben, eux, c'est pas des citadins comme nous. C'est pas des gens qui sont victimes de racisme comme nous, ou de sexisme comme nous. Ils sont déplorables à penser voter pour un tu sais. Et lui, Trump, a ramassé ces gens-là.
Ouais.
Ce qu'il peut pas nécessairement faire maintenant.
Non.
Après 225 000... Parce qu'il faut le dire, ça aussi. C'est une incurie. Je m'excuse. Là, là-dessus, je pense qu'on a moyen de l'affirmer. Dans tous les pays développés, à part peut-être la Belgique, l'Espagne, les États-Unis sont les pires en termes de gestion de la pandémie.
Sauf que...
Il y a des morts, des vrais morts.
Oui, sauf
que... T'as des charniers, là.
Oui, sauf que... Puis, oui, la seule affaire, c'est que... Ça, moi, je pense que c'était plus vrai que c'était proche du monde il y a quelques mois. Là, en fait, tu sais, c'est pas de la grande analyse politique, mais Trump vend de l'espoir. Vend l'espoir que, oui, turn the corner, puis que ça soit vrai ou pas, pour lui, c'est sûr que ça n'a pas d'importance. Il vend pas l'espoir en disant, voici mon graphe. We turn the corner, il ramène ça à lui, moi je l'ai eu, j'en suis survécu, tenez-vous debout, blablabla. Biden vend pas l'espoir. Il vend... C'est, regardez, par rapport à la pandémie, s'il faut refermer l'économie, on va le faire. S'il faut prendre des mesures drastiques, on va le faire. On va prendre soin de nous. Puis, tu sais, force est d'admettre que dans l'histoire, c'est souvent celui qui vend l'espoir qui gagne. Tu sais, mais c'est la même façon que tu dis le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. C'est une blague de Louis de Funès, là, tu sais. Je sais pas quel film, il dit.
Mm.
Mon programme, c'est le plein emploi, le plein emploi et le plein emploi. C'est pas... OK, c'est cool. Et, comment?
Oui, encore.
Là, t'as l'autre qui dit, ah oui, on a perdu, puis on a des mois difficiles devant nous, puis finalement, on vote pour le plein emploi, tu sais. Mais bon, une pandémie, tu sais, on n'a pas eu ça souvent, c'est particulier.
On n'a pas eu ça partout. C'est jamais arrivé de mémoire d'homme, là. En fait, en 1918.
Fait qu'il y a-tu tellement de souffrance que les gens vont dire, tu sais, ça n'a pas de sens. Ou les gens vont dire, ben, we turn the corner, puis on a espoir dans le vaccin, on a espoir dans l'espoir.
C'est fort, t'sais. Le déni, à vous, hein. C'est fort, le déni, à vous. C'est comme si. Tu ne peux pas croire. Qu'il y a des gens, c'est-à-dire, non seulement tu as des gens qui meurent, mais tu as des gens qui souffrent énormément parce qu'eux travaillent auprès de gens mourants qui pourraient ne pas être mourants si moindrement on avait comme juste appliqué des mesures d'hygiène publique de base. Tu sais, tu as des gens qui sont épuisés, qui sont des médecins, des infirmières, des préposés, des gens qui enterrent des gens à Staten Island, à New York, des gens qui ramassent des gens dans des camions réfrigérés à la sortie d'hôpitaux. Ça fait penser à Bill Clinton, à un moment donné, qui disait en entrevue, « Quand les gens réfléchissent, ils sont avec nous.
»
Tu sais, fait que c'est ça qu'on a besoin de faire, c'est de les amener à réfléchir. Puis c'est vrai, on vend du rêve, on vend de l'illusion, on fait semblant que les morts sont pas morts, on fait semblant que ta mère, elle a jamais existé, on fait semblant que c'est jamais arrivé qu'on enterre des gens dans des boîtes en plywood, un par-dessus l'autre, dans l'État de New York. On fait semblant que ce qui est arrivé à New York, c'est dû au fait que le gouverneur, c'est un démocrate.
Ouais.
On fait semblant. Puis là, finalement, on se rend compte que dans le Kentucky, tu sais, puis dans le Wisconsin, puis qu'à toutes les places où Donald Trump arrive, tu as une augmentation après ses rallyes du nombre de cas. On fait semblant que ça n'arrive pas. On fait semblant qu'on est rounding a corner puis qu'on n'est pas dans le top 10 de tous les pays du monde en termes de mortalité. Est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce que les gens vont accepter de croire? C'est comme c'est ça qui est un peu affolant dans toute l'affaire, c'est que Trump, on peut dire, bon, ben c'est intéressant comme cas clinique. Moi, ça m'intéresse beaucoup.
Mm-hmm.
Comment ça peut se passer que quelqu'un d'aussi fou se retrouve à la présidence des États-Unis?
Oui.
T'es peut-être pas d'accord avec moi, parce qu'il y a l'autre côté qu'on peut dire, ben oui, mais eux aussi sont fous dans leur style, tu sais.
Oui.
Sauf que comment est-ce qu'on peut en arriver, la vraie question, à dénier, comment est-ce qu'on peut en arriver à dénier la réalité à ce point-là et déshumaniser des citoyens à ce point-là qu'on arrive à dire, mais dans le fond, c'est pas si grave, toutes ces morts-là.
Ouais, mais tu sais, c'est sûr...
Toute cette souffrance-là...
Mais tu sais, c'est sûr que tu vas me dire... J'ai déjà ton objection en tête par rapport à mon argument qui est peut-être pas très fort, mais parfois, tu sais, on a pu voir des gens croire dans l'American Dream d'une façon magistrale, quand en fait, les faits montraient qu'ils étaient plutôt pris et repris et coincés dans des conditions de vie épouvantables,
oui.
Puis qu'ils se faisaient toujours resservir « the American dream
oui. »
comme possibilité de travailler fort puis s'en sortir.
Oui.
Quand des fois, tu te dis « mais là, à un moment donné, les gens vont dire « regardez autour de vous autres, il y a des riches qui, qui s'enrichissent, puis nous autres, on est pris là.
Oui. »
Fait, ça se dit bien, là. C'est beau. Puis c'est pas faux complètement, mais jusqu'à quel point on peut faire du minage là-dessus en disant à des gens qui sont appauvris, maganés, souffrants, you have to believe in the American dream.
Dans le film Unfit, le documentaire, là, donc ça faisait. Unfit, c'est un documentaire qui est monté par un gars qui s'appelle Gartner, qui est un psychologue. Qui capote parce qu'il trouve que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est juste pas dans une position de pouvoir gouverner. C'est quelqu'un qui est inapte. Puis, il voulait contribuer. Il sentait qu'il avait un devoir d'avertir la population. Et il a monté un documentaire qui s'appelle Unfit, où il interviewe beaucoup de gens, des psychiatres, des psychanalystes, etc. Et un gars qui s'appelle Scaramucci, qui a été pendant 11 jours porte-parole de Donald Trump.
Ah ouais?
Un gars qui vient d'origine modeste, puis qui a géré des fonds, qui a réussi dans la vie, etc. Et ce gars-là dit, « OK, moi j'ai réussi. » Dans une interview dans le film, il dit, « OK, moi j'ai réussi. » Puis j'étais pro-Donald Trump. Il y a une classe politique dont je voulais qu'on se débarrasse aux États-Unis.
Mm-hmm.
J'étais comme pour le message de Donald Trump. Et je me suis retrouvée dans des rallyes à lui. Et dans ces rallyes-là, ce que j'ai vu, c'est des gens qui m'ont rappelé mes origines modestes que j'avais complètement oubliées. Et ça m'a comme, pouf, tu sais, comme réveillée par rapport au fait qu'il y a toute une classe de la population qu'on a complètement oubliée dans notre discours politique. Mm-hmm. Et Donald Trump, il faut lui donner ça, c'est à eux qu'il s'est adressé en 2016. Mm-hmm. C'est ça. En tout cas, c'est comme juste en...
Oui, oui, tout à fait.
Puis sauf c'est... qu'après sa conclusion, c'est ben oui, mais finalement,
oui.
Moi, je suis restée là 11 jours, puis c'est pas pour rien, tu sais.
Ouais. Son message est strictement par rapport à la politique et à l'élection. La pandémie est venue tout foirer. Son message, puis à qui il s'adresse, puis comment. Puis, comme on a déjà dit, s'il y avait une affaire avec laquelle il est fondamentalement mal à l'aise, c'est quelque chose comme ça, parce que... Mais il essaye de se dépatouiller en blâmant la Chine, tout ça, mais... Tu peux pas négocier avec un virus. Là.
Mais tu peux pas faire semblant que les gens meurent pas. Ben, tu peux faire semblant que les gens ne meurent pas, c'est ça qu'il a décidé de faire. Regardez, moi, j'ai ressuscité d'entre les morts, je suis votre messie, tu sais.
Ouais.
Ça n'enlève pas que les gens continuent de mourir.
Mais dans ce contexte-là, puisqu'on parle de politique, parlons-en. À quelques jours des élections, imagine-toi que tu es conseillère de Joe Biden. Toi, t'es celle... On est ensemble, on fait partie de la gang qui le conseille puis qui essaie de donner une direction à sa campagne. Tu penses pas qu'on regarderait les deux dernières semaines puis qu'on se dirait qu'on en a donc bien échappé? De quoi qu'on parle à toujours s'enfarger dans les affaires de Trump puis elle continue à l'accuser puis à rentrer dans son ballon? Pourquoi dans ses ballons, dans les affaires qu'il lance puis qu'il essaie désespérément de s'accrocher à toutes sortes d'histoires, pourquoi qu'on garde pas le cap sur... la vraie et réelle pandémie, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire, puis qu'on laisse faire ces trucs, parce que de toute façon, ça commence à être usé, l'idée de dire que c'est un clown, puis qu'il est idiot, puis qu'il n'y a pas d'allure. Les médias qui reprennent ça se font accuser d'être biaisés, sa gang le sait, l'écoute plus. Tu sais, il y a aussi une fatigue, moi je pense qu'on peut penser qu'il y a plein d'électeurs qui n'écoutent plus les accusations envers Trump, parce que c'est établi, ceux qui l'aiment pas, puis ceux qui l'acceptent, l'acceptent, ou ceux qui l'aiment, l'aiment. Puis que, dans le fond, on rentre dans son jeu en continuant à en parler de lui et de ses torts et travers et caricatures, quand en fait, il y a une gestion d'une pandémie qui est totalement à l'ordre du jour, beaucoup plus que la couleur de son bronzage, puis ses hyperboles, puis ses mensonges, puis plein de patentes qu'il lance toujours. Tu sais, ça revient encore à lui.
Nous, on en parle de Trump, tu sais. Puis son c'est pas du bronzage, c'est du maquillage, là. Puis tu le vois, là, tu la vois la ligne, là. C'est comme il a regardé, tu sais. Joe Biden, puis sa campagne, font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas en parler. Fait que quand tu dis « on », c'est pas la campagne de Joe Biden. C'est les médias qu'on regarde. Nous! Pis c'est ça qui fait peur, je trouve. C'est qu'à un moment donné, il y a comme... On n'arrive pas à trouver un lieu où ce que on peut se sentir... Tu sais, qu'il y a une agora où on peut se rassembler, tout le monde, puis s'entendre sur les faits dont il est important de parler. Tout est fragmenté, tout est éclaté, tout est... Joe Biden, il y a une espèce de petit jeu de campagne là, où Barack Obama a repris du service au service des démocrates, puis qui annonce que ben, lui, il va être le bad cop dans l'histoire, parce que depuis tantôt, depuis des mois, Joe Biden fait juste dire... Moi, j'ai confiance dans le peuple américain. Moi, je veux parler honnêtement au peuple américain. Ce gars-là, il ne représente pas le peuple américain. Il nous divise. Moi, je crois qu'on peut se rassembler. Il essaye. Puis là, autour de ça, tu as ceux qui transmettent l'information, qui sont fidés dans la division. puis qui donne l'illusion que c'est la campagne de Biden qui alimente ça, mais...
Ben, je reste avec l'idée que comme conseiller, on se dirait qu'il y a moyen d'avoir plus d'impact, puis de centrer notre message, puis de pas se laisser divertir par toutes sortes de trucs qu'on peut... comme un hochet, là, qui vient divertir l'attention
pendant plusieurs jours. Oui, des petits objets brillants, là, comme les merles, là, les corbeaux, ils viennent ramasser des boucles d'oreilles qui traînent parce que ça brille.
Oui. Mais bon, on va savoir qu'est-ce que ça va donner dans quelques jours.